Avec vous Jean-Pierre Blimaud, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Dernier match de l'année pour l'équipe de France de football tout à l'heure. Les Bleus sont en Albanie pour les qualifications à l'Euro.
Les Français sont déjà qualifiés après leur victoire arrachée jeudi face au modeste Moldave. Mais ce soir à Tirana, ils ont un objectif, les Bleus. Finir premier de leur groupe dans un duel à distance avec la Turquie qui joue en Andorre. En attendant, 370 supporters français ont fait le déplacement, même si les Bleus ont déjà leur fameuse qualification en poche. En fin d'après-midi, Cédric Guillou sur place a rencontré Henri et Guillaume, deux collègues de travail qui ont fait le voyage.
Nous, c'était un déplacement qu'on avait planifié dès le début d'année. On en a fait d'autres, Moldavie, Andorre, Turquie. Et donc l'Albanie, c'est le dernier déplacement de l'année, donc on se devait d'être là.
Nous, en fait, on est passionnés de voyage, on aime bien le foot. Donc ça, c'est un voyage qu'on avait planifié donc il y a déjà quelques temps. Et après, c'est toujours visiter un pays supplémentaire, voir des stades de foot, se retrouver là entre collègues, voilà.
Alors ce match est aussi à marquer d'une pierre blanche pour le sélectionneur Didier Deschamps. Il va diriger les Bleus pour la 100e fois. Un Didier Deschamps qui n'a pas franchement un bon souvenir de son dernier déplacement en Albanie, car les Bleus y avaient perdu en match amical, Cédric Guillou.
Oui Jean-Pierre, Didier Deschamps va fêter, vous l'avez dit, son 100e match sur le banc des Bleus ce soir. Alors il a évidemment beaucoup de bons souvenirs, le sélectionneur tricolore, mais il en a aussi des mauvais. Et le dernier déplacement ici en Albanie en juin 2015 en est un.
C'est pas un bon souvenir. La dernière fois que je suis venu ici, certes, c'était pas ce stade, mais ça avait été très compliqué. Donc, même s'il n'y a pas un intérêt sportif pour les Albanais, le fait que, voilà, ça sera le premier match ici, avec tout ce que représente l'identification nationale, cette ferveur, cette passion, on aura un vrai match avec de l'engagement. Il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau, bien évidemment.
Et ce soir, Didier Deschamps et les Bleus ne veulent pas revivre la mauvaise soirée du 13 juin 2015. Ils avaient perdu 1-0 contre l'Albanie en match amical, car l'équipe de France doit assurer la première place de son groupe de qualification.
Voilà, coup d'envoi d'Albanie-France à 20h45 ce soir, même horaire pour le match des Turcs en Andorre. Autre match comptant pour les qualifications de l'Euro 2020, le Luxembourg accueillait le Portugal. Un Portugal qui cherchait sa qualification, eh bien c'est fait, puisque avec un but notamment de Cristiano Ronaldo qui a marqué son 99e but en sélection, les Portugais ont battu le Luxembourg 2-0. Ils finissent deuxième de leur groupe derrière l'Ukraine, mais ils sont qualifiés.
Le foot ce week-end, Jean-Pierre, c'est aussi le 7e tour de la Coupe de France.
Avec l'entrée en lice, c'est une grande tradition des équipes de Ligue 2. Alors aujourd'hui, Valenciennes et Nancy se sont qualifiés. Hier, Lorient, Lens, Auxerre, Rodez, Le Mans, Paris FC, Caen, Niort, Orléans et Chambly sont également passés. Mais 8 équipes de Ligue 2 sont passées à la trappe. La Palme à l'US Saint-Flour, club de National 3, l'équivalent de la 5e division, qui a battu Ajaccio.
De bon augure en tennis pour la Coupe Davis qui débute demain à Madrid. Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert ont remporté la finale du double au Masters de Londres.
Et c'est la consécration pour la paire française qui est peut-être la meilleure paire du tennis mondial actuellement, avec cette victoire au Masters de Londres, 6-3, 6-4 en 2-7 seulement, face au Sud-Africain Raven Claessen et au Néo-Zélandais Michael Venus. L'an dernier, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut avaient perdu la finale des Masters. Ils ont quand même à eux deux gagné aussi plusieurs fois les grands chelems, notamment sur tous les grands chelems de la planète. Alors la finale du Masters de Londres en simple oppose actuellement le grec Stéphane Tsitsipas à l'Autrichien Dominic Thiem, deux joueurs qui n'ont jamais réussi à se hisser à ce niveau de la compétition, et le match vient tout juste de commencer.
Et la Coupe Davis, donc, elle débute demain avec une nouvelle formule.
La grande nouveauté cette année pour cette compétition plus que centenaire qui va se dérouler en un seul lieu. Une seule semaine, et donc ce sera à Madrid avec 18 nations qui vont s'affronter, avec un système de poules au départ, et puis quart de finale, demi-finale et finale ce week-end. La France, par exemple, va débuter mardi face au Japon, avant d'enchaîner face aux Serbes du redoutable Djokovic. En tout cas pour le capitaine tricolore Sébastien Grosjean, l'un des avantages de cette nouvelle formule, c'est que tout va compter, même en cas de défaite.
Bien sûr, les victoires, mais également les 7 vont compter, les jeux. On peut sortir d'une poule et aller chercher une compétition sans avoir gagné les deux rencontres. Contre, un peu comme au Masters de fin d'année. Donc tout compte et ça va être aussi cette nouveauté. Progressivement, la pression va monter. Ça a débuté hier avec le dîner officiel, la présentation demain et puis notre première rencontre mardi. Donc voilà, c'est en train de monter. Ouais.
Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de tennis, de Coupe Davis, donc au micro de Mathieu de Taillac. Alors le capitaine a sélectionné en simple Benoît Paire, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Et en double, bien sûr, Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut.
En rugby, on jouait ce week-end la première journée de la Coupe d'Europe.
Défaite aujourd'hui hein, pour Lyon et Montpellier, mais alors très beau succès du Racing 92 tout à l'heure face aux Saracens de Londres, Fanny Le Chevestrier.
Vous l'entendez sans doute derrière moi, Jean-Pierre, elle a fait basson plein ici à la Défense Arena pour célébrer une belle victoire du club francilien face aux champions d'Europe et d'Angleterre en titre. Victoire 30 à 10 avec 4 superbes essais. Alors oui, c'est vrai, les Saracens ne sont pas au mieux, minés hein, par une sanction historique pour dépassement de la masse salariale. Leur star anglaise était restée également à la maison, mais on a vraiment assisté à une belle partie du Racing 92 avec notamment eh bien, Virimi Vakatawa de Gala. Le Racing qui, avec ce succès, prend la tête de la poule 4, juste devant le Munster, son prochain adversaire.
Alors Fanny, avec la victoire du Racing 92, hein, on a 3 clubs français qui ont brillé ce week-end dans cette Coupe d'Europe de rugby, et ça, c'est important.
Le Racing 92 qui rejoint effectivement dans le camp des victorieux le Stade Toulousain et Clermont pour des succès très importants pour tenter de relancer l'attractivité d'une compétition de plus en plus boudée en France. La faute depuis quelques temps à des résultats décevants. On le rappelle, le dernier titre européen pour un club français, c'est Toulon en 2015. Et puis avec la pression d'un championnat de France de plus en plus serré, bon nombre de clubs tricolores préfèrent lever le pied dans la compétition européenne. Alors cette année, pour tenter de relancer la machine, les organisateurs européens ont choisi Marseille pour théâtre de la finale en mois de mai et puis ils tentent de remettre du rugby sur les chaînes gratuites de télévision. Ainsi, pour la première fois depuis 2014, France Télé diffuse cette année 2 matchs par week-end. En Angleterre, il y avait déjà eu ce changement il y a quelques années. Cela avait permis de faire bondir les audiences de 40% et bien sûr les recettes publicitaires qui vont avec.
Fanny Le Chevestrier, donc au stade de l'U-Arena de Paris.
Un mot de la Coupe du Monde de biathlon, elle débute dans 2 semaines, avec une bonne nouvelle côté français ce week-end, le retour en forme de Martin Fourcade.
Après une année noire, en tout cas une saison noire la saison dernière, le quintuple champion olympique semble sur la bonne voie pour retrouver la forme et le premier plan avec un week-end fast en Norvège, hier 3e de la course de rentrée, et puis aujourd'hui une victoire dans la Mass Start avec un 18 sur 20 au tir et des très bons temps au ski. Voilà de quoi le rassurer à 2 semaines de la Coupe du Monde qui commencera le 30 novembre à Östersund, c'est en Suède.
Allez, en sport automobile, on se souvient du film avec Steve McQueen au début des années 70. Il y a désormais Le Mans 66, nouveau film qui vient de sortir sur les mythiques 24 heures du Mans.
Il est sorti cette semaine avec Matt Damon et Christian Bale. Ce long métrage retrace l'histoire du duel entre Ferrari et Ford lors de ces 24 heures du Mans en 1966, ça fait un petit paquet d'années quand même. La course d'endurance la plus prestigieuse du monde avait connu eh bien, un duel épique. Ford s'était déplacé dans la Sarthe pour mettre fin à la suprématie de Ferrari, Guillaume Batin.
En 1966, Ferrari est imbattable aux 24 heures du Mans.
Ferrari remporte les 24 heures du Mans pour la 5e année consécutive.
Une domination qui rend fou de rage l'américain Henry Ford.
Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que Ford fabriquait des petites voitures affreuses dans des usines affreuses. Et il vous a traité de gros, monsieur.
Le film raconte une histoire d'homme, celle du patron d'écurie, Carroll Shelby, et du pilote néo-zélandais Ken Miles.
Il paraît qu'il est difficile.
Ken ?
Mais non, Ken, c'est un chaton.
Fabrice Bourigo est le directeur du musée du Mans.
Ça n'est pas qu'une histoire de bagnole, c'est avant tout une belle histoire humaine. Mais Le Mans, c'est ça. Hein. C'est d'abord une aventure humaine, parce qu'il faut une équipe, il faut des mécanos, il faut un team manager, il faut des pilotes. Le scénario, il est maintes fois rejoué pendant la course. On peut passer du larme au rire, d'une course perdue à une course gagnée. Donc, il y a tout ça, quoi. C'est plein de sentiments humains. En fait, c'est un western, ce film. C'est un western mécanique qui se déroule aux 24 heures du Mans. C'est le Seigneur des Anneaux, mais la quête, c'est le trophée des 24 heures.
Les Ford GT40 occuperont finalement les 3 premières places du podium, reléguant loin derrière les Ferrari. Et Ken Miles à la seconde place, à quelques dixièmes de seconde du vainqueur Bruce McLaren, futur patron d'écurie.
Guillaume Batin sur France Inter.
Pour terminer, une exposition de photos de sport à Paris. L'événement est assez rare pour être souligné.
Alors Kylian Mbappé qui court derrière un ballon, Novak Djokovic qui tente de rattraper une balle de tennis, des photos de sport, on en voit tous les jours dans le journal ou sur le net. Elles peuvent aussi être des véritables œuvres d'art. C'est le défi du Paris Sport Photo, un festival qui s'achève aujourd'hui à Paris. Tout premier festival dédié à des images de sport. Car pour les organisateurs, la photo comme le sport sont vecteurs d'émotion, Louis Bergevin.
Il y a le stade, la foule qui se déchaîne, laissant éclater sa joie ou sa tristesse.
Et puis il y a le spectateur de l'exposition. Calme, silencieux, mais pas du tout indifférent devant un cliché. Devant le visage de ce boxeur américain, par exemple, c'est William Dupuis qui l'a photographié.
On voit Deontay Wilder qui vient de finir sa séance de sparring. Il le regarde, c'est un gros plan sur son visage. Il fait un peu la tête d'un boxeur un peu agressif et méchant. On sent qu'il a envie d'en découdre. Et puis, tout d'un coup, il finit et je m'approche pour faire les photos. Et au bout d'un moment, je sens que je suis tellement prêt. Et hop, il tourne la tête et il me lance ce regard comme s'il allait me mordre. Hein. On dirait un chien qui va m'attaquer, en fait. Hein. On voit bien ses dents. Je fais quand même la photo. Et une fois que j'ai fini la photo, ce qui est incroyable, il s'est mis à sourire.
Un geste, une expression qui peut faire peur, émouvoir ou troubler. C'est le cas de cette joueuse de rugby en train de plaquer, le visage déformé par l'effort. Admirée par Colette et son mari.
Moi, je suis presque choquée. C'est un petit peu violent, quoi. Mais c'est parce que c'est figé, justement. Il dit, à la télé, ça ne me paraît peut-être pas autant.
Alors, d'accord pour l'émotion, mais à l'heure du sport, ultra filmé, des dizaines de caméras autour des terrains, il sert à quoi, le photographe ? Franck Seguin expose ici.
Les images qui bougent, votre cerveau ne les enregistre pas. Vous ne retiendrez pas juste une image d'un film. Regarder une image, c'est pénétrer dans un monde imaginaire. C'est vous qui allez vous fabriquer le monde qu'il y a derrière la photo. C'est aussi un appel à lire un article, une photo en presse.
Mais au Paris Sport Photo, on a le droit de ne pas lire le texte et de ne regarder que les images.
Louis de Bergevin sur France Inter. Et puis un mot de sport mécanique, hein, on y était au moins il y a quelques instants. Le Grand Prix de Formule 1 de Sao Paulo au Brésil, c'est en ce moment. De toute façon, Lewis Hamilton est assuré d'avoir le titre de champion du monde des pilotes. Mais la moto, eh bien encore déception pour Fabio Quartararo sur Yamaha. Un parti en pole position pour la 6e fois de la saison aujourd'hui. Eh bien, il n'a pas gagné, il a été devancé par le champion du monde Marc Marquez. Alors qu'il avait l'occasion, eh bien pour la première fois depuis 20 ans, la victoire de Régis Laconi, justement à Valence, de gagner un Grand Prix, ce qui n'est pas arrivé pour les Français depuis 1999.